Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bienvenue dans Planète Business et aujourd'hui nous recevons le docteur Yacine Eliatoui, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2 et secrétaire général de Neige Maroc, pour décrypter une question centrale. Comment le Maroc affirme-t-il son rôle de locomotive économique en Afrique et de pont stratégique entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique? Un hub logistique mondial, d'une puissance industrielle émergente, champion des énergies renouvelables, moteur de l'intégration africaine, le royaume attire, investit, influence, ses ports transforment les chaînes de valeur, ses entreprises rayonnent en Afrique subsaharienne et sa diplomatie économique ouvre de nouveaux horizons. Bonjour à vous docteur, pour Bonjour. Nous aider à comprendre aujourd'hui l'impact du Royaume du Maroc à travers l'Afrique, mais aussi à travers le monde.
Bonjour, un grand merci pour l'invitation.
Et justement, plein pied dans cette perspective marocaine, comment le positionnement d'ailleurs du Royaume comme hub logistique et industriel entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique renforce-t-il son attractivité pour les investisseurs internationaux?
Le positionnement marocain combine géographie et investissement infrastructurel pour produire en fait un avantage comparatif durable. Géographiquement, la situation au détroit de Gibraltar et sur l'Atlantique réduit en fait les distances vers les ports européens et crée des routes maritimes courtes pour le transbordement et la redistribution vers l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique. Et puis infrastructurellement, les développements des ports, les plateformes industrielles, les zones franches, mais aussi l'intermodalité rail-route crée un package en fait véritablement attractif. Un accès rapide au marché, une réduction des coûts de stockage et puis une meilleure prévisibilité des délais logistiques. L'exemple chiffré le plus net est le complexe Tangemed qui a franchi la barre de plus de 10,24 millions d'EVP en 2024, confirmant donc sa capacité à transborder des flux massifs et à attirer opérateurs et industriels. Cette concentration en fait d'infrastructures attire des investisseurs qui cherchent à la fiabilité des chaînes d'approvisionnement, la réduction, comme on l'appelle, du lead time, et puis la possibilité du nearshoring vers l'Europe et des économies d'échelle sur services logistiques, mais aussi industriels.
Aussi industriel, et justement, quelles sont plutôt les retombées économiques des investissements marocains en Afrique subsaharienne, notamment dans les secteurs bancaires, de télécom, mais aussi dans l'immobilier?
Les retombées sont multidimensionnelles. Elles sont à la fois financières, numériques, urbaines et institutionnelles. Dans la finance, des groupes bancaires marocains ont construit des réseaux régionaux d'intermédiation, présence dans de nombreux pays africains, qui facilite l'accès au crédit, comme le groupe BCP par exemple, ou Tijari Wafa Bank, la gestion des transactions commerciales et la bancarisation locale. Et puis ce sont des instruments qui sont essentiels pour le commerce intra-régional et l'investissement privé. Dans les télécoms, les opérateurs marocains, via leurs filiales en Afrique, contribuent à la croissance du nombre d'abonnés mobiles et d'usage data. Maroc Télécom affichait environ 79 millions de clients consolidés fin 2024, dont une large part via ses filiales africaines, contribuant à l'émergence d'écosystèmes numériques et de services financiers mobiles. Enfin, dans l'immobilier et les infrastructures, les promoteurs marocains participent à l'urbanisation en fournissant bureaux, logements et plateformes logistiques dans les capitales africaines et stimulent l'emploi local et l'attractivité urbaine, selon plusieurs rapports du groupe OCP et ses développeurs. Et puis ces retombées génèrent transfert de compétences, recettes fiscales, local et puis un renforcement des capacités productives locales liées à Tijari Wafa Bank, Maroc Télécom ou encore le groupe OCP.
Le groupe OCP, aujourd'hui par rapport même à cette orientation, comment d'ailleurs la montée en puissance des énergies renouvelables au Maroc, en particulier l'hydrogène vert, influence-t-elle la transition énergétique du continent africain?
Le Maroc a massivement investi dans le solaire et l'éolien pour diversifier son mix et réduire sa vulnérabilité au prix des hydrocarbures. On va même atteindre le taux de 52% de consommation verte à l'horizon 2030. Cette trajectoire se prolonge aujourd'hui par des projets d'hydrogène vert, l'électrolyse alimentée par renouvelables pour produire hydrogène et dérivés, comme l'ammoniac vert, destiné à l'export et à des usages industriels. Et puis il y a l'impact continental qui tient à trois effets. Le premier effet, la démonstration technologique et industrielle. La mise en œuvre d'électrolyseurs à grande échelle et l'organisation de chaînes logistiques d'export qui servent de modèle pour des partenariats régionaux et pour la formation technique. Le deuxième effet, c'est la constitution persécution de corridors énergétiques, l'export d'énergie bas carbone vers l'Europe ou la transformation en produits chimiques bas carbone peut créer des flux commerciaux nouveaux et des opportunités d'investissement régional. Et puis le troisième effet, c'est le CAPEX et les opérations de maintenance qui génèrent emplois qualifiés et marchés par la fabrication locale des composants. Et cela, c'est l'horizon en fait 2030 où il y aura 52% de capacité installée à renouvelables à cet horizon. Et puis il y a des plans d'investissement portés par l'État, par des partenariats privés internationaux et la gouvernance aussi de certificats d'origine bas carbone. Le Maroc excelle dans ce modèle.
Et de quelle manière, docteur, la politique africaine du Maroc soutient-elle l'intégration du continent et contribue-t-elle d'ailleurs à un marché économique africain plus fort et plus connecté ?
Pour l'anecdote, c'était en fait le sujet de ma thèse doctorale. Absolument. qui a été soutenue récemment à l'université de Salamanque. Et la politique africaine-marocaine, elle combine en fait la diplomatie politique grâce à une vision royale, mais aussi une projection d'acteurs économiques. Elle fonctionne sur trois registres. Diplomatique, la réouverture ou l'ouverture d'ambassades, les dialogues intergouvernementaux, économique avec les IDE, les concessions, les partenariats publics-privés, et puis aussi le lien capacitaire, la formation, le transfert technique où le Maroc excelle dans ce domaine. C'est même de l'expertise made in Morocco où le Maroc réalise dans ce domaine capacitaire. Concrètement, la présence d'entreprises marocaines en banque, télécom, agriculture ou encore infrastructure crée des liens économiques et financiers entre pays, facilite les paiements, les crédits et la circulation des biens. Et puis l'OCP, par exemple, a développé des plateformes de fertilisation et des partenariats de production qui améliorent le rendement agricole dans plusieurs pays africains qui doivent atteindre la souveraineté alimentaire. Et puis le groupe OCP développe ce que l'on appelle désormais une diplomatie du fertilisant au service de la sécurité alimentaire. En synthèse, vraiment, c'est le Maroc qui agit comme catalyseur d'interconnexion, réduit certains coûts d'entrée et puis favorise la structuration progressive des chaînes de valeur régionales. L'effet systémique qui dépend cependant de la mise en réseau institutionnelle continentale, c'est l'harmonisation réglementaire, c'est le corridor logistique, c'est donc la vision royale.
Un effet transposé à travers également ces infrastructures et justement quel impact le développement de grands ports comme celui de Tangemed a-t-il sur les chaînes de valeur mondiales et de compétitivité du commerce africain ?
Les grands ports modernes transforment les configurations des chaînes de valeur. Tangemed, bientôt Nador Med-Ouest et puis également le grand port de Dakhla Atlantique offrent un triple service. Transbordement mondial, plateforme industrielle contiguë et point d'accès maritime pour l'intérieur du continent. Le résultat, c'est la réduction des coûts logistiques et des délais d'acheminement vers l'Europe et l'Amérique, ce qui rend compétitif certains modèles d'assemblage export et puis attire des investissements industriels, à la fois automobiles, aéronautiques ou textiles techniques. Et puis les données 2024 attestent d'un trafic conteneur de plus de 10,24 millions de TU et d'une plateforme industrielle de plus de 1300 entreprises qui génère des dizaines de milliards de dirhams en chiffre d'affaires, signe d'un effet cluster qui est palpable. Néanmoins, l'effet sur le commerce intra-africain reste conditionné à la connectivité terrestre et aux procédures douanières. Aujourd'hui, le commerce intra-africain demeure encore trop limité, autour de 15% des échanges continentaux. Si bien que l'impact des hubs portuaires ne se réalise pleinement que lorsque s'ajoutent corridors routiers et ferroviaires efficaces, le Maroc a encore son rôle à jouer dans les années à venir pour apporter son expertise afin de développer cette interconnectivité au niveau routier.
Un exemple à suivre également pour les autres pays du continent frère. Et nous allons tout de suite, avant de revenir avec notre invité, je rappelle que c'est Dr Yacine El Yatoui, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2, mais aussi secrétaire général de Neige Maroc. Nous allons suivre ce point sur l'actualité RSE avant de revenir tout de suite.
Bienvenue dans Actu RSE, votre minute de l'entrepreneuriat durable. À l'international, les entreprises revoient leur copie. Un nouveau rapport, The Sustainability Playbook, appelle à un véritable reset de la RSE. On parle de recentrer les priorités, d'impliquer enfin les conseils d'administration et surtout d'assumer un rôle politique clair. Bref, fini la communication verte, place aux actes lourds et mesurables. Et toujours dans le monde, une initiative qui fait du bruit, la Formule E, et l'ONG Street Child lance un fonds pour reconstruire les écoles détruites par les catastrophes climatiques en Sierra Leone. Sport, solidarité et résilience climatique, la RSE n'a jamais été aussi transversale. Et puis, direction l'Afrique, le continent prépare un grand tournant, une taxonomie verte et sociale africaine appelée à devenir le premier cadre unifié pour orienter les investissements privés vers des projets réellement durables. Un outil puissant qui pourrait transformer la finance et attirer des capitaux responsables là où ils sont les plus nécessaires. Et au Nigeria, la créativité devient un levier de transformation. Le programme Youth in Creativity 1.0 soutient les jeunes talents de Lagos à travers une initiative RSE qui mêle culture, emploi et innovation sociale. La preuve que la durabilité, c'est aussi l'avenir des jeunesses africaines. À retenir en ce jour, la RSE passe d'un discours à une stratégie, d'un bonus à une nécessité et d'un geste à un mouvement collectif. C'était votre Actu RSE. On se retrouve pour une nouvelle minute qui change le monde.
De retour, alors docteur, justement en plein pied dans cette émission, mais je suis à travers ces thématiques qui est très intéressante. Comment les zones industrielles marocaines spécialisées, comme dans l'automobile, l'aéronautique et ou le textile, participent-elles à l'industrialisation du continent en créant des synergies régionales ?
Les zones spécialisées créent des écosystèmes complets. Des fournisseurs locaux et internationaux, des centres de formation, des infrastructures liées à la recherche et le développement, et puis des dispositifs d'incitation. Dans l'automobile, le taux d'intégration locale dépasse largement 60% sur certains segments. Et puis la production nationale a franchi des paliers significatifs. Près de 500 000 véhicules en 2024, une tendance à la hausse encore en 2025. Ce qui fournit des débouchés pour des fournisseurs régionaux et des sous-traitants. L'aéronautique rassemble plusieurs centaines d'entreprises spécialisées, constituant un tissu capable d'absorber des transferts technologiques. En fait, ces pôles servent de laboratoire. Ils démontrent en fait comment articuler formation professionnelle, standard qualité et puis attractivité d'IDE et peuvent devenir des points d'ancrage pour des chaînes d'approvisionnement régionales à condition d'accompagner par accords commerciaux régionaux et également les infrastructures transfrontalières.
Et également une thématique qui vous parle quand on parle de diplomatie, docteur. Quelle opportunité d'ailleurs la diplomatie économique du Maroc ouvre-t-elle pour les entreprises nationales dans les secteurs stratégiques ?
La diplomatie économique réduit les asymétries d'information et offre des leviers concrets. L'accès accéléré à des appels d'offres publiques, la facilitation de garanties financières, le cofinancement bilatéral et puis les appuis institutionnels pour la conformité réglementaire locale. Pour les entreprises marocaines, ceci se traduit par un meilleur taux de conversion des prospections en contrats, notamment dans l'énergie, l'infrastructure, l'agro-industrie et les télécoms, mais aussi par la possibilité d'exporter son savoir-faire dans la gestion urbaine, le dessalement ou les solutions digitales. Les instruments mobilisés incluent donc des agences de promotion, des banques de développement comme Atijari Wafa Bank ou encore des assurances crédits comme le groupe BCP qui réduisent donc le coût politique et financiers des opérations à l'étranger. En contrepartie, ces opportunités imposent de renforcer compliance, due diligence et gouvernance d'entreprise sur les marchés ciblés.
Sur les marchés ciblés aujourd'hui également, par rapport à cela, en quoi d'ailleurs la montée en gamme technologique du Maroc avec l'industrie 4.0, entre autres, peut-elle servir de modèle aux pays africains en quête de transformation numérique ?
L'industrie 4.0 combine automatisation, robotique, Internet des objets et puis data analytics pour améliorer productivité et qualité. Le Maroc a déployé des incubateurs, des parcs technologiques comme le groupe UM6P et des programmes de formation qui permettent à des usines locales d'atteindre des gains de productivité substantiels, estimés souvent dans une fourchette de 10-20% sur des lignes automatisées. Ce modèle est transférable. Il repose sur trois piliers réplicables. L'investissement ciblé en capital physique et logiciel, la montée en compétences via la formation technique, et puis pour finir, le cadre incitatif pour l'innovation. Pour les pays africains, le leçon learning marocain consiste à combiner investissement privé et appui du public pour créer des démonstrateurs industriels exportables et des clusters régionaux. Les conditions de succès restent l'accès au financement, la connectivité numérique et puis pour finir, les politiques éducatives adaptées.
Politique donc adaptée. Aujourd'hui, quels sont d'ailleurs les impacts attendus de l'adhésion future du Maroc à la CEDEAO, comme vous le savez, sur le commerce intra-africain et sur l'équilibre économique régional?
Une adhésion effective ouvrira en fait un espace de marché plus vaste, centaines de millions de consommateurs, et faciliterait la circulation des biens, des services et des capitaux entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest, favorisant l'émergence des chaînes de valeur régionales, et où le Maroc en plus lie son africanité, prolonge son africanité avec cette région historique frère. Et puis, il y a aussi l'intensification des IDE, et puis le soutien aussi des corridors logistiques reliant Tanger Med au marché ouest-africain. Toutefois, les gains dépendent de modalités d'intégration. Déjà, il y a une vitalité de voir ce projet d'initiative atlantique s'articuler, l'harmonisation ensuite douanière, et puis les dispositifs de protection des filières sensibles. Politiquement, l'adhésion nécessite donc de gérer les résistances liées à la concurrence et à la protection des marchés domestiques. Et puis, sur le plan économique, cela va exiger des mesures d'accompagnement pour les secteurs vulnérables afin de tirer un bénéfice net partagé et non une carence.
Et non une carence, bien évidemment, que si ce n'est pas une carence, c'est aussi une orientation positive pour permettre, bien évidemment, au Maroc de servir de point d'ancrage, mais aussi d'exemplarité pour les autres pays africains, mais aussi en modèle d'économie. Aujourd'hui, comment d'ailleurs les succès du Maroc dans l'organisation d'événements mondiaux comme la Coupe du Monde 2030, la Coupe d'Afrique 2025 dans quelques semaines, les grands forums économiques et entre autres, renforcent-ils son influence géopolitique et ses partenariats business internationaux?
En fait, organiser de grands événements, c'est un levier de soft power. C'est un mot à la mode qu'on utilise depuis de nombreux mois, même de nombreuses années. Soft power, en plus, qui a été développé par Joseph Nye, qui malheureusement est décédé cette année, immense professeur à Harvard. Et ce concept de soft power produit à la fois des effets immédiats et des héritages durables. À court terme, ces événements génèrent flux touristiques, investissement en hébergement et puis une dynamique aussi à la commande publique. À moyen terme, si l'État combine accueil et stratégie industrielle, l'héritage infrastructurel lié au transport, l'hôtellerie, les centres d'affaires, pourront servir de socle à l'attraction d'investissements. Ça, c'est l'après 2030. Et puis l'insertion d'entreprises locales dans des chaînes de valeur internationales. Sur le plan géopolitique, la visibilité obtenue par l'organisation d'événements renforce la crédibilité diplomatique, facilite la négociation de partenariats stratégique et puis développe les accords commerciaux et les investissements bilatéraux. L'impact durable dépend donc de la gouvernance post-événement. La reconversion des infrastructures, le programme d'appui aux PME et puis l'intégration de l'héritage en fait dans les politiques industrielles cohérentes. Il est nécessaire en fait que le Maroc articule infrastructure, diplomatie économique, capacité industrielle et transition énergétique pour se positionner comme pivot régional.
Et tout ça, bien évidemment, dans l'intérêt de tous les pays africains, de prendre en exemple le Maroc, qui se veut aussi un pays ouvert, un pays qui représente le continent et aussi qui s'ouvre au monde à travers son épanouissement économique, stratégique et aussi une diplomatie aujourd'hui éclairée à travers toujours le roi Mohamed VI. Merci encore à vous, docteur Eliatoui.
Merci, un grand, grand merci pour l'invitation.
Je précise encore que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2, mais aussi secrétaire général de nos collaborateurs de Neige Maroc, à qui nous saluons de passage. Merci encore à vous, docteur.
Un grand merci.
Merci à vous pour cette confiance renouvelée dans votre émission Planète Business. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro.